Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Qu'est-ce que je vais être mauvais dans cet épisode, putain, mais pourquoi il y a autant de méchanceté, quoi? Mais j'ai eu des paranormaux pour... Pourquoi je suis aussi méchant? Mais qu'est-ce que le bon Dieu a fait pour qu'il soit aussi méchant? Ah putain, aujourd'hui j'ai envie d'en foutre plein la gueule. J'ai envie d'en mettre plein la gueule à la modernité. En fait, ce qu'il y a de difficile quand tu te prépares à faire un podcast, c'est qu'il faut que tu choisisses quel segment de la modernité tu vas clasher. Et là, le problème, c'est que j'ai envie de faire un tir. J'ai envie de faire un tir groupé. Vous savez, comme dans ces vidéos en Irak, quand t'avais, bon, t'as un marché, t'as des gens qui vendent de la salade, t'as des gens qui vendent, je sais pas moi, du charbon à chicha, des tapis, tu vois, un peu le souk oriental, tu vois. Et au milieu, il y a deux terroristes sur 650 personnes. Et à un moment, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix de savoir si tu balances une bombe au milieu. Mais c'est vrai, ces trucs-là. À un moment, tu vois, les mecs, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres de l'Irak. Tu vois, ils sont dans un bureau de l'armée, avec une petite souris, un ordinateur, un logiciel de guidage de drones et de missiles, tu vois, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, hein, mais j'imagine que c'est ça. Et en fait, ils ont en HD, comme ça, vue du ciel, voilà, vue du ciel, ils ont une vision HD d'un petit marché, dans une petite ville du Kurdistan irakien, dans un quartier de Bagdad, enfin, peu importe, tu vois. Tu vois, Bassora, bon. Et les mecs, ils regardent comme ça. Et en fait, les gens sont déshumanisés parce que c'est des petits, comme des petits pions, comme ça, vus de dessus. Et comme ils ont des chapeaux, on les voit pas trop, ils ont pas de visage. Et à un moment, tu fais CTRL-SHIFT et tu envoies un missile pour les éclater. Et si tu veux, là, le cerveau doit être suffisamment, tu dois être suffisamment protestant pour pouvoir faire ça et aller dormir le soir, en fait. Mais il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand t'es jeune et tout, tu te dis putain, c'est un truc d'enculé, ça se fait pas. Parce qu'en fait, pour deux terroristes, ben, tu anéantis des centaines de vies. Et puis même, tu vas fabriquer d'autres terroristes parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va survivre et qui va dire putain, qui a fait ça? C'est les Américains qui ont fait ça. Oh putain, suce à l'Amérique. Vite, je fais les épreuves d'admission de comment ça s'appelle, d'Al-Qaïda, et vite, je vais leur faire payer. Donc c'est un peu l'usine à fabriquer, quand tu fais des trucs comme ça, c'est l'usine à fabriquer des terroristes. Mais je comprends qu'à un moment, quand tu n'y arrives pas, tu sais, t'essaies de travailler finement, t'as envoyé des mecs sur le terrain, tu dépenses du pognon pour essayer de choper deux terroristes, il faut faire attention aux lois internationales et tout, il y a un moment, t'en as plein le cul. T'appuies sur CTRL-SHIFT, quoi, et t'as tout qui éclate. Et tu te dis, putain, je les ai eus, bon, j'ai enfreint des centaines de lois de la Convention de Genève et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quoi. Mais au moins, je me les suis fait, il y a un petit côté comme ça, mais des fois, j'ai envie de me laisser aller à ça quand je pense à des trucs de la France contemporaine. Parce que, bon, alors il faut savoir que tous les mois, je remonte pour faire les... Parce que je ne prends pas l'avion, je n'aime pas l'avion. Puis même, en fait, je ne peux pas me faire garder Maximus. Donc, chaque fois que je veux remonter à Paris tous les mois pour faire une émission avec le Raptor, je loue une bagnole et je fais 2 jours de route avec une nuit à l'hôtel, aller et retour. Donc, c'est quand même assez lourd. Ça me mobilise 5 jours minimum. 2 jours pour monter, 1 jour pour faire l'émission, 2 jours pour redescendre. En général, je reste 2-3 jours sur Paris, des fois je fais très court, des fois je fais un peu plus long, bon bref. Donc tous les mois, je dois monter à Paris en faisant une halte par Toulouse. Et si vous voulez, chaque fois que je reviens en France, parce que bon, l'Espagne aussi est victime de la postmodernité, alors de manière différente hein, de la France, hein, c'est d'autres choses. Eux, ils sont plus victimes, je trouve, du mauvais goût que de la médiocrité, voilà. La médiocrité est quand même, je pense, moins présente, mais parce que tout simplement, le pays a moins été attaqué par les modalités, puis il y avait surtout moins de choses à détruire. Il y a ça aussi. C'est que la France étant un véritable joyau, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à casser et à détruire. Donc c'est vrai que moi qui l'ai connu à peu près en forme, bon, il faut bien savoir que dans les années 90, c'était déjà plus du tout la France d'avant mai 68, et même d'avant la Première Guerre mondiale. Donc j'ai connu une France qui était déjà en déshérence. Mais comme je le répète souvent, c'était pas encore non plus invivable. Voilà, je trouve aujourd'hui que la France devient de plus en plus hostile aux Français, à celui qui veut vivre à la française, de plus en plus. Et moi, on a tous un capital, moi je l'ai dépassé depuis longtemps. La fermeture des comptes, les injustices, le harcèlement judiciaire, la promotion des pires mecs anti-France et la punition des authentiques patriotes, la moquerie et la guerre qu'on fait contre le Christ et son Église. Donc si vous voulez, le Christ et ses Églises, on va dire, puisque quand le Christ est offensé, ben vous avez toutes les branches du christianisme qui sont offensées. Bon, bref. Il y a une guerre qui est faite aux Français, en fait. Hein, parce que dès que t'es catho, que t'aimes ton pays, que t'es patriote, c'est ce qui s'appelle être français. Bon, eh ben, il y a une guerre qui t'est faite de facto. Et c'est vrai que quand je reviens, l'Espagne, c'est le pays où j'allais en vacances. Et les infrastructures étaient déjà pourries dans les années 90. Elles le sont toujours aujourd'hui. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et l'Espagne des années 90 demeure encore. Hein. Je veux dire, il y a eu la crise qui est passée par là, mais les gens continuent à vivre comme ils vivaient. Il commence à y avoir une déferlante, effectivement, migratoire, mais qui n'a rien à voir dans l'ampleur et dans la marge de manœuvre qu'elle a par rapport à ce qu'il y a en France. Donc, ce sont deux pays très, très différents. Et attention, l'Espagne n'est pas du tout un Eldorado. Je dis juste que la postmodernité l'attaque de manière différente et donc beaucoup moins, on va dire, de manière beaucoup moins, envahissante. C'est-à-dire que si vous voulez trouver des endroits où vous avez encore l'Espagne des années 90, c'est possible. La France, c'est de plus en plus difficile. Même si vous allez visiter un château, vous allez voir des trucs de cassos. Voilà. Moi, il y a encore des endroits où je ne fais pas la différence entre les années 90 et 2025. Ça me fait beaucoup de bien. Mais il se trouve que l'Espagne n'est pas le pays où j'ai grandi. Le pays où j'ai grandi, c'est la France. Et c'est ce pays-là que j'aimerais voir redevenir le pays que j'ai connu dans mon enfance. Bon, bref. Et donc, je monte et c'est vrai que dès que je sors le cul de l'hôtel... Puisque quand je monte à Paris, je vais à l'hôtel. Dès que je sors le cul de l'hôtel, je vois des trucs qui me fendent le cœur. La médiocrité est omniprésente. Elle est omniprésente. La décrépitude, la chute, elle est omniprésente. Mais en fait, bon, je pense que c'est aussi parce que je deviens un vieux con, en fait. Hein. Je pense qu'il y a ça. Je pense que j'approche des 40 ans, là, dans quelques mois, dans une dizaine de mois, enfin, un peu moins, dans 9 mois. Je fais 40 piges. Bon, je crois qu'il y a ça aussi qui joue. C'est-à-dire que je vieillis. Voilà, je vieillis et je supporte plus rien. Je deviens ce mec qui m'étonnait quand j'étais petit. Tu vois, il y en avait des mecs qui supportaient déjà plus rien dans les années 80-90. Dans le sud-ouest, c'était les mecs qui faisaient « Boah !» Tu leur parlais d'un truc et la réponse était « Boah !» Il n'y avait rien d'autre après. T'étais là, tu disais « Ouais, au Futuroscope, il y a des films en 3D. » C'était le début de la 3D avec les lunettes en 3D. C'était le tout début, fin des années 90, là, avec le Futuroscope à Poitiers. Et tu disais ça, et les vieux, ils te regardaient d'un œil bovin, ils faisaient « Boah !» Parce qu'en fait, ça voulait dire « Va te faire enculer, fils de pute, toi, et tes lunettes 3D de PD. » Il y avait des trucs comme ça où les mecs manifestaient par une onomatopée le rejet, tu vois, le rejet de tout ça, tu vois. C'est tu venais leur présenter des trucs de fils de pute. Moi, je me rappelle avoir essayé d'expliquer les POG à mon oncle. Donc, je lui montre les POG avec l'espèce de créature poilue. Je lui explique les règles du jeu. Et en fait, le mec regarde, il fait bah, 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 bah. Il y avait des bah, 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 bah. Et en fait, ce « bah, 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 bah », il veut dire en réalité... il veut dire ça, en fait. Bon, bref. Et je commence à devenir ce mec-là. sais, moi, je comprenais pas qu'on soit pas émerveillé par le futur, qu'on soit pas émerveillé par la nouveauté. Et je deviens ce mec-là, en fait. Mais ce que je me dis, c'est qu'ils avaient, à l'époque, objectivement raison sur certaines choses, et sur d'autres, ils n'avaient pas raison. Voilà. Les POG, c'est nul, mais c'est pas non plus... c'est pas un truc d'attardé, tu vois. Bon, aujourd'hui, le wokisme, si tu veux, c'est un truc d'attardé, en fait. Donc le il est mérité, mais par exemple... Quand on était en mode, ouais, dans le futur, on pourra avoir ça, ça, et les mecs faisaient bah, ils avaient raison sur certains trucs. Donc voilà, j'arrive à être objectif. J'arrive à voir ce qui est de l'ordre de la légitimité du bah, et ce qui n'est pas légitime. Bon. Et moi, donc, vous savez, mon boulot, c'est d'être un conteur, que ce soit par écrit ou par podcast, que ce soit à travers mes livres, à travers mes podcasts. Je suis connu pour ça, c'est pour ça que vous m'appréciez, c'est l'oralité. Voilà, l'oralité, et ceux qui ont lu mes livres. Pour l'oralité qui se transcrit dans l'écriture. Bon. Et pour nourrir cette oralité, il faut observer, il faut s'inspirer. Donc, ça me fait beaucoup de bien de sortir de mon petit village, d'aller me balader en France, partout en France, et de récupérer de l'information. Voilà, de récupérer de l'inspiration. Et putain, quel désastre. Bon, il faut savoir que la dernière fois, je suis allé dans un très grand centre commercial de la banlieue parisienne, très très grand. Je ne vais pas dire lequel. Mais je suis allé dans un très grand centre commercial. Et il n'y a rien qui va. En fait, je notifie une dégringolade civilisationnelle tous les 2 mètres. Tous les 2 mètres. J'arrive à la FNAC. Bon, il y avait des agents de sécurité africains, très certainement congolais, vu le phénotype. Et donc j'arrive. Bon, j'avais mon sac. J'avais un sac parce que j'avais acheté des affaires. Je veux rentrer dans le comment ça s'appelle, dans la FNAC. Et les mecs s'en branlent, en fait. Et je ressors. Ils ont pas fouillé non plus. Ils en ont rien à foutre. Mais tant mieux. Remarque, tu me diras. T'es peinard. Mais je sens que c'est comme quand on me livre des colis qui ont été ouverts. Ou des colis qui ont... Ils ont été chahutés. La dernière fois, j'ai commandé un tableau que j'ai acheté en Italie. Il y avait marqué fragile dans toutes les langues dessus. Le truc avait mangé des murs. Il y a globalement, en Occident, un effondrement du service. Un effondrement de la tenue. Un effondrement de la logique, un effondrement de la rationalité, un effondrement de la rigueur. Et c'est trans-ethnique. Hein. Chaque ethnie a son style de dégénérescence, d'accord ? C'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes pentes, mais par contre, on est tous touchés par ça. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Arabes, les Noirs, les Juifs, les homosexuels, je sais pas quoi, qui sont victimes de la décadence. Le blanc, en tout premier lieu. Mais de manière différente. Chacun a son style, si vous voulez. Chacun a son style. Chacun devient un Mongolien de merde à sa façon, en fait. Voilà. Selon ses propres atavismes, dirons-nous, pour utiliser un mot qui ne plaira pas à la gauche. Voilà. Et si vous voulez, je peux, par souci d'équité et puis pour éviter de fâcher des gens, je peux prendre ces profils, les uns après les autres, le blanc, le juif, le noir, l'arabe, le PD, tout ce que vous voulez, je peux les prendre les uns après les autres et les atomiser les uns après les autres. Je peux même faire ça avec le droitard. On va mettre le droitard aussi. On va mettre le blanc de gauche, mais on va mettre aussi le blanc de droite. C'est-à-dire, là, je pense que ce podcast, je vais faire comme au marché de Souleymania ou de Bassora dont je vous parlais ce matin, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je vais faire un tir groupé. Il y aura peut-être des gens qui pensaient pas être touchés par la déflagration qui veulent être touchés par la déflagration. Voilà, mais fallait pas participer, en fait. Bon, et j'ajoute en préambule que moi-même, je suis fortement critiquable sur certaines choses et que je me permets de le faire pour les autres parce que je suis capable de le faire pour moi. Voilà, je suis capable de pointer mes manquements, mes contradictions, il n'y a aucun problème. Je le ferai à la fin, si vous voulez, ce sera un exercice intéressant. À la fin, je m'auto-clasherai. Parce que je le ferai mieux que la plupart des mecs qui tentent de me clasher, où chaque fois ça tombe à l'eau, c'est pas très bon. Je m'auto-clasherai à la fin, d'accord ? comme ça, je serai lavé de toute forme de volonté de nuire gratuitement. Là, ça va être le grand procès, ça va être le grand jugement, d'accord ? Alors non, le grand jugement, c'est quand tu meurs et que tu rencontres Dieu. Mais là, je vais être obligé de tous les passer à la moulinette les uns après les autres. Le communiste hein, blanc, le PD blanc, le branleur noir, l'arabe, le juif, tous. Voilà, tous. Aujourd'hui, c'est le grand bûcher. On va tous dans les flammes. Voilà, c'est comme ça. C'est l'enfer sur terre. C'est parti, quoi. Allez, par qui on commence ? Par qui on commence ? Ah putain, vous savez par qui j'ai envie de commencer. Vous savez qui sont mes cibles préférées. Et là, tous les Arabes qui écoutent le podcast sont en train de trembler. Quoi. Il y a une petite tension, il y a une montée du rythme cardiaque chez les Maghrébins qui écoutent ce podcast. Ils se disent, oh putain, Papacito va recommencer avec les Maghrébins. Hein. Ah, Papacito déteste les Arabes musulmans. Ah, qu'est-ce qu'il va dire encore ? Quelle saloperie ! Comment il va nous offenser cette fois-ci ? Mais de mille manières ! De mille manières! Ah, les Arabes, quoi. Dans ma tête, chaque fois que je m'apprête à dire des trucs sur les Maghrébins, il y a ça. On s'en remet un petit coup. Je sais pas si vous l'entendez, je trouve ça énorme. Bon, bref. Par qui on commence ? Je sais pas par qui je commence. J'ai commencé par les vigiles noirs. Bon, allez, on va clasher les noirs un peu. Allez, allez, allez. Là, ça suffit. Oui, oui, je vous aime bien. Oui, oui, j'ai fait la dot, j'ai fait un mariage congolais. Oui, j'entraîne un athlète noir. Mais c'est pas pour ça que je vais pas vous clasher un grand coup. D'accord ? Voilà, on va commencer par les noirs. Les arabes, on les garde pour plus tard. Bon, alors, j'ai une information pour les afrocentristes. Hein, d'accord ? Les noirs normaux, ne vous inquiétez pas, ça va être ciblé. J'ai une information pour les afrocentristes. Hein. Vous êtes la race supérieure. Voilà, c'est dit. Le noir fait partie de la race supérieure. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une déclaration comme ça, ça ne manquera pas d'être repris par tous les commentateurs d'extrême droite qui m'attendent au tournant pour dire à quel point je suis un négrolâtre. Papa Sinègre, qu'est-ce que j'ai entendu ? Papa Drépanocito, Négrocito, bon bref. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être ça. Hein, voilà. Vous êtes la race supérieure, les Noirs, afrocentristes, parce que je me suis rendu compte d'un truc récemment. Je ne connais pas, à échelle continentale, donc à échelle de l'Afrique, d'accord, je crois que c'est un des plus grands continents du monde. Il y a peut-être l'Asie qui est plus grand. Je crois que l'Afrique est le plus grand continent du monde. Je ne connais pas, je n'ai en tout cas jamais entendu dire un représentant afrocentriste qu'il existe un conflit en Afrique qui ne soit pas de la faute des Blancs. Ce qui fait de vous la race supérieure. Et je vous explique pourquoi. Moi, en tant qu'être humain incarné, je suis toujours comme ça. Je suis toujours sous le joug éternel de la volonté belliciste. C'est-à-dire que mon continent, le continent européen, connaît encore des guerres qui sont provoquées par les Européens, qui sont la faute des Européens. La dernière en date, c'est la guerre Ukraine-Russie, mais il y en a eu d'autres avant, hein, entre Européens, la guerre civile espagnole, la guerre de Yougoslavie, la guerre qu'il y a eu en Irlande du Nord. Ce sont des guerres qui sont provoquées par des Blancs, faites par des Blancs, avec des massacres entre Blancs, dont la culpabilité revient aux Blancs. Voilà, c'est-à-dire que dans la guerre de Yougoslavie, les massacres qui ont été commis de part et d'autre, hein, puisqu'il y en a eu, contrairement à ce qu'on dit, non pas que par les Serbes, mais par tous les camps, Croates, Albanais, Bosniaques, Serbes, tout le monde s'est massacré. Bon, les crimes de guerre qui ont été commis par les Bosniaques sont la faute des Bosniaques, les crimes de guerre qui ont été commis par les Serbes sont la faute des Serbes, les crimes de guerre qui ont été commis par les Oustachis croates, c'est la faute des Croates, on est bien d'accord. Les crimes de guerre créés par les Ukrainiens sont la faute des Ukrainiens. Les crimes de guerre commis par les Russes, sont la faute des Russes. Donc nous sommes des humains. Nous avons la responsabilité de nos actes. Nous sommes nous sommes désespérément éloignés de la sagesse de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de l'Africain. Ce qui n'est pas le cas de l'Africain, puisque, à ma connaissance, il n'existe pas de conflit africain qui ne soit, en tout cas dans la tête des Noirs, de la faute des Blancs. Citez-moi, si vous êtes un afrocentriste, que vous voulez débattre avec moi, citez-moi, à partir de l'instant T, là, on est le 30-03-2025, là, il est 15h05 à l'heure où je fais ce podcast, envoyez-moi une vidéo qui date d'avant le 30-03-2025, 15h05, où vous avez un représentant afrocentriste qui parle d'un conflit africain qui ne serait pas la faute des Blancs. Alors, spoiler alerte, il n'en existe pas. Donc, vous êtes la race supérieure, je vous l'annonce. Vous êtes plus près de Dieu que les Blancs. Vous êtes des anges. Les personnes qui arrivent à ne pas céder à la guerre, qui ne sont pas sous le joug éternel de la guerre, qui tiennent toute l'humanité. La guerre, toute l'humanité la commet. Les peuples d'Amérique du Sud font la guerre, les Asiatiques font la guerre et c'est leur faute, les Sud-Américains font la guerre et c'est leur faute. Je veux dire, les Blancs font la guerre et c'est leur faute. Le continent africain et les populations africaines sont les seules populations au monde qui n'ont pas la responsabilité des conflits qu'il y a sur leur continent. Je n'ai jamais entendu un représentant noir dire « ce conflit qui se passe en ce moment en Afrique, c'est la faute des Noirs ». Mais c'est une merveilleuse nouvelle. Vous êtes déjà des anges. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas une paire d'ailes dans le dos, les amis. Sinon, expliquez-moi ce paradoxe. Si vous êtes des humains comme les autres, comment se fait-il que vous avez cette faculté supérieure au reste des êtres humains d'être capable de ne jamais être responsable de la guerre ? Génocide au Rwanda ? C'est la faute des Blancs. Un conflit entre les milices islamo-marxistes rwandaises contre les populations du Nord Kivu ? C'est les Blancs. Mais quel conflit africain n'est pas la faute des Blancs ? Non, mais c'est une vraie question. Quel conflit africain n'est pas la faute des Blancs ? Quand il y a des disputes sur entre les Touaregs djihadistes et les populations du Mali Bambara, c'est-à-dire en fait les anciens esclaves des Touaregs, c'est encore une fois la faute des Blancs. C'est-à-dire, il y a Adama qui tire sur Adama. Il y a Samake qui tire sur Traoré. Et c'est la faute de Jean-Michel. C'est dingue ! Non, mais c'est dingue ! C'est incroyable. Parce que quand Sergueï, le russe, tire sur Ivan, l'Ukrainien, c'est la faute de Sergueï. Quand Ivan, l'Ukrainien, tire sur Sergueï le Russe, c'est la faute d'Ivan. Putain, en Afrique, non. En Afrique, non. Le moindre conflit qu'il y a n'est jamais la faute des Noirs. Jamais. Je n'ai jamais entendu un discours qui dise « Nous avons la responsabilité de ce conflit armé ». Il y a toujours l'Occident derrière. Donc, si aucune guerre qui se passe sur le continent africain n'est la faute des Africains, ça veut dire qu'à échelle continentale, vous êtes... Donc, je ne sais pas combien il y a d'habitants en tout en Afrique. Il doit y avoir 1 milliard plus, ou 3 milliards, ou j'en sais rien. Mais ça veut dire qu'il y a 3 milliards d'anges en Afrique. Vous êtes des individus incapables de faire la guerre. Vous êtes des anges. Donc, vous êtes supérieurs aux êtres humains. Hiérarchiquement, il y a Dieu, il y a les anges, il y a les hommes. Eh bien, vous êtes la race supérieure. Non, mais c'est une super nouvelle. Ça, c'est un truc que je dis aux afrocentristes. C'est une très, très grande nouvelle, ça. Vous êtes... C'est un Blanc qui vous le dit. Si vous êtes extirpé... Si vous êtes extirpé des méandres éternels de la guerre qui étreint la race humaine, c'est que vous êtes au-delà de l'humanité. Vous êtes des anges. Donc, félicitations, c'est magnifique. Voilà. Donc, le défi tient toujours. Je veux que vous me montriez un représentant de la communauté noire en France, donc Crazy Sally, Rokhaya Diallo, Omar Sy, même au sein de la librairie africaine, dites-moi si vous avez un morceau d'interview, une déclaration d'un représentant de la communauté noire en France, francophone, qui impute un conflit qui se passe en Afrique aux Africains. Si vous me trouvez ça, je présente mes excuses dans le prochain podcast. Je présente pendant un quart d'heure mes excuses au prochain podcast. Si vous arrivez à me trouver ça, voilà. Si vous n'arrivez pas à me trouver ça, c'est que je viens de placer une quenelle gigantesque. Voilà. Donc, il va falloir s'activer. Et attention, hein, une déclaration qui date d'avant le 30/03/2025, 15h10 maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que rien ne vous est imputable. Et si rien ne vous est imputable, il y a deux solutions. Soit vous êtes des anges, soit vous êtes des innocents. Et les innocents, c'est le mot poli chez les Blancs pour dire un gogol, quoi. Donc, même dans un discours afrocentriste, d'accord, même dans un discours de promotion de la race noire, puisque c'est comme ça que vous la concevez, même dans un discours de promotion de l'ethnie noire, du black power, du black rising, du réveil noir, même dans une visée de discours mélioratif pour les noirs, le problème, si vous extrayez de la guerre, c'est que vous faites de vous des gens extrêmement manipulables. Et donc là, c'est plus des anges que vous êtes. C'est des gogoles. C'est le revers de la médaille. C'est-à-dire, si t'es le seul continent où tout le monde arrive à te faire faire des guerres, il y a un problème à échelle continentale. Et ça va beaucoup moins vous plaire. C'est-à-dire que la partie ange, je pense qu'il y en a qui peuvent l'entendre, bien qu'ils sentent que je troll. La partie vous êtes des gogoles parce que vous êtes ultra malléable, ça c'est moins rigolo. Donc le conseil que je me permets de donner en tant que white savior dégueulasse, sale blanc, insupportable, qui donne des conseils, d'accord, c'est de commencer, par exemple, à envisager qu'il est possible que vous ayez une responsabilité dans la survenue des événements qui vous entourent. Essayez d'explorer cette piste. Il est peut-être envisageable que certains conflits qui touchent les Africains contre d'autres Africains soient peut-être, mais attention, c'est une possibilité, soient peut-être de la faute des Africains. Mais peut-être, on ne sait pas, mais peut-être il y a 3% de chances que ce soit le cas. Peut-être il y a 2% de chances que quand un noir va tirer dans la tête de notre noir, et ce soit la faute du noir. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est infime, peut-être, allez, 0,00003% de chance que quand un noir découpe à la machette un autre noir, ce soit peut-être 0,003% la faute du noir, tu vois, peut-être. Voilà, peut-être. Il faut envisager cette piste. Je sais, elle est ténue. Elle est minuscule. Elle est ridicule même. Elle est ridicule, c'est inenvisageable. Mais quand même. Tu vois, l'esprit rationnel du kémitisme qui maîtrise tout avant tout le monde devrait peut-être se pencher sur cette possibilité-là. Tu vois, ce qui rangerait les Africains au même niveau que tout le reste de l'humanité, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actes. Voilà. Moi, en tant que comment vous les appelez, les leucodermes, voilà, en tant que leucoderme européen, bien que je ne sois pas le plus leucoderme des Européens, si on me compare avec un Suédois, évidemment, d'accord, j'estime qu'il y a des choses qui sont de la faute de mon peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'Espagne perd des points de PIB parce que tout le monde arrive 3 heures après l'horaire indiqué, ben peut-être que c'est notre faute. Je dis pas, ouais, il y a un juif qui a mis un croche-patte à chaque espagnol qui voulait arriver à l'heure, c'est la faute des juifs. Vous voyez le problème. Voilà. Donc cette équation, elle est insoluble en fait, parce qu'en réalité, vous êtes piégé entre deux trucs. Soit avouez que vous êtes la race supérieure, intéressant, mais les gens vont quand même se moquer, hein, il faut s'y attendre. Soit qu'il y a des problèmes de plasticité, il y a des problèmes de malléabilité. Voilà. Et ça vous enchante beaucoup moins. Donc peut-être que la solution à tout ça, c'est de se re-responsabiliser. Le génocide du Rwanda, je veux bien qu'on ait vendu des armes, je veux bien que si, je veux bien que ça. À un moment, t'as un mec qui sort de chez lui, il attrape une machette avec sa main et il découvre les voisins avec qui il vivait depuis 30 ans. Bon, blanc, pas blanc, moi, influence, pas influence, il y a un moment où je sais m'arrêter, si tu veux. D'accord? Quand je vois un cul dans la rue et que c'est un cul qui me plaît, je saute pas sur la gonzesse. Même si on m'a poussé à le faire. D'accord? Il y a des gens que je n'aime pas, je vais savoir m'arrêter. Vous voyez? Je ne porte pas l'islam et les musulmans dans mon cœur. C'est pas pour ça que demain on va me réussir à me faire mettre un coup de machette à un enfant musulman, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un moment où j'ai un libre arbitre. Je suis le gardien de mon âme et j'ai pas envie de me salir les mains et de commettre un truc que Jésus n'aurait jamais validé, que n'aurait jamais fait. Donc j'ai ce qu'on appelle un libre arbitre, voire un gendarme intérieur, tu vois. Donc en fait, il va falloir revoir ce discours parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Là, je suis sur Instagram, tout est la faute des Blancs. Chaque fois qu'il y a un post sur un truc qui dysfonctionne en Afrique, c'est les Blancs. Allez un peu, vous faire enculer, au bout d'un moment. D'accord ? Voilà. Bon, ça, c'était pour les Noirs. Allez, qui c'est qu'on clash maintenant ? Qui c'est qu'on clash ? Putain, les Arabes, j'ai envie. Hein. Les Arabes, j'ai envie. Est-ce que je vais arriver à me retenir et faire les Juifs avant ? Qu'est-ce qu'on fait ? On démarre par. Ou on démarre par ? Je crois que vous les entendez pas les mêmes. Bon, bref. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'occupe de votre cas, les Arabes? Est-ce qu'on fait les Juifs d'abord? Allez, on va faire les Juifs. Bon, faut qu'on discute, là. Alors, je résume. 1980. Bon, la ratonnade, c'est pas bien, touche pas à mon pote. Les Restos du Cœur, les Enfoirés, Jean-Jacques Goldman. Michel, t'es un sale raciste. Le Pen, brrr, il donne envie de vomir. Bon. 1980, bon. Je sais pas combien d'intifadas plus tard. 7 octobre 2023 ou 2024, c'était 2024, je crois. Ouais, ça. 7 octobre 2024, hein, ou 2023, je sais plus. Ouais, ça, 2023. Il y a un massacre. Il y a un massacre, une exaction dans la pure tradition des exactions, avec des énucléations, des démembrements, des lynchages. Et là, en fait, il y a des obèses séfarades qui arrivent à la télé française. Et la ratonnade est ouverte. C'est comme la saison de la chasse. La ratonnade est ouverte. Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, on peut y aller. Si tu veux, bon. Touche pas à mon pote, hein, sauf s'il me fait une intifada. Voilà, faut rajouter ça. C'est, hé les goy, touchez pas à mon pote, hein, sauf s'il touche à moi. Là, par contre, là, c'est bon. Là, on peut lui bombarder la gueule. Vous comprenez que c'est agaçant. Là, je parle aux juifs rationnels. Hein. Je parle pas aux hystériques. Vous comprenez, les gars, vous comprenez qu'il y a un problème. Depuis 1980, et y compris pendant les attentats qui secouaient la France, il fallait pas faire d'amalgame, d'accord ? Patrick Cohen, pas d'amalgame. Arthur, pas d'amalgame, d'accord ? Je vais pas citer tous les juifs de la télé, parce que c'est un podcast qui doit durer quand même un temps limité, mais on est d'accord que on va dire, à l'échelle de vos représentants communautaires à la télé, les gens sont quand même massivement dans l'antiracisme, dans la préservation de l'autre, contre la ratonnade, carrément anti-Le Pen, compagnie. Et à partir du 7 octobre, là, il y a Enrico Macias, il y a tout le monde. La vie de ma mère, les Arabes, c'est pas des êtres humains. Mais attendez, les gars, il y a un problème, allez-y doucement. Non, parce que là, vous comprenez ma position. Je vous demande juste de sortir. D'accord ? On va essayer de faire un exercice chrétien. Je sais que c'est difficile. On va essayer de se voir dans l'autre. D'accord ? C'est ça le Christ. Hein. Je le dis pour les juifs et les musulmans, puisque c'est pas la doctrine de vos religions. Pour les juifs, le Christ est un imposteur. Et pour les musulmans, il n'a rien à voir avec le Christ de la Bible. Voilà. Donc, le Christ, qui lui-même était juif, d'ailleurs. Bon. Lui, son truc, c'est de se voir dans l'autre. C'est ça, en fait, le christianisme. C'est de se voir dans l'autre. Et là où il y a un énorme problème, c'est que vos représentants ne se sont pas vus dans l'autre. C'est-à-dire, quand on se faisait égorger, qu'on prenait des attentats, que ça tirait à vue au Bataclan, qu'il y avait des racailles de merde qui cassaient les couilles, vous ne vous êtes pas vu dans le goy. Vous ne vous êtes pas vu dans le gentil. Et donc, vous nous avez laissé pourrir, d'accord ? Et vous nous avez muselés avec vos frères goy de gauche. Hein. Je ne dis pas que c'est uniquement les juifs, attention. Hein. Mais les juifs de gauche, avec les goy de gauche, d'un seul élan et d'une seule même voix, nous ont demandé d'endurer. Non, non, mais attends, attends, ne cède pas au racisme, Jean-Michel. Non, mais ne cède pas au racisme. La ratonnade, c'est mal, Michel. Non, non, Le Pen est un salopard. Le Pen est un salopard, Michel. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas toucher. Non, au racisme. Et tout. Tout le monde déteste la police. C'est tout. Le monde déteste la police. Trois pas en avant, un pas en arrière. Gna, les slogans là de manif de merde que vous donnez à vos goyes de gauche. Ça, on en a bouffé pendant 40 ans. D'accord ? Mais il y avait déjà du viol, du cambriolage, des trucs de racaille finis de merde qu'on a envie d'exploser, si vous voulez. Et là, il fallait se retenir. Il ne fallait pas redevenir un Européen des années 30. Il fallait faire attention à nos Arabes. D'accord ? Et là, tout d'un coup, le 7 octobre. Donc là, ça rentre en scooter, ça bute des teufeurs israéliens. Et là, tout d'un coup, il n'y a que des juifs d'extrême droite. En fait, je ne comprends pas quand, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les juifs sont devenus le juif qu'il y a dans le film de Roman Polanski, le pianiste que j'ai revu récemment, bon, qui est un film quand même... je l'avais vu au cinéma, ça m'avait marqué, hein, j'avais 18 ans. J'étais sorti de là, je me disais, putain, enculé, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas rigolo quand même. Et à un moment, il y a un personnage dans le ghetto de Varsovie qui est en fait un juif qui a un képi et qui aide les nazis, en fait. Hein. Il aide les nazis à exterminer les autres juifs. D'accord, c'est un collaborationniste du ghetto avec les nazis. C'est la police juive du ghetto qui se met avec les nazis. D'accord. Et ce mec-là, on sent que il est complètement ce personnage. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a un nom ashkénaze. Bon, évidemment, ça se passe en Pologne. Ce personnage-là, si vous voulez, on sent que il y a rien qui le différencie des nazis, en fait. Vraiment rien. C'est juste que il n'est pas allemand et voilà, c'est tout. Mais en fait, vous êtes devenu ça, à partir de 7 octobre, vous êtes devenu... vous avez commencé à adopter des discours totaux. Le problème, c'est que ces discours-là, vous les avez confisqués aux goy. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse cet exercice très chrétien ensemble, où vous acceptiez, où vous nous disiez, ça ferait vraiment du bien, et on pourrait avancer, si jamais il y avait cette honnêteté. Que vous nous disiez, oui, il y a eu un traitement différent de la réaction... que ça arrive à un juif ou que ça arrive à un non-juif, c'est-à-dire un goy. Parce que les méfaits et le terrorisme des Arabes, ça fait très très longtemps que les goy le subissent. Bon, mais les goy avaient interdiction d'être d'extrême droite. Et tout d'un coup, vous avez à la télé française des mecs qui arrivent et qui disent « Les bicots de Palestine, il faut les exploser. Il faut les destroncher, il faut les éclater, il faut y aller. Il y a personne n'est innocent à Gaza. » C'est des phrases qu'il y a eues. Bon, ça, moi, je ne les porte pas dans mon cœur, les babouches. Hein. Je pense que c'est un secret pour personne. Mais quand tu dis un truc comme ça, c'est diabolique. Personne, il n'y a aucun groupe dans le monde, d'accord ? Il y a vraiment des groupes humains que je déteste. Hein. J'ai vraiment un problème avec... Non, je vais pas le dire, ça va sauter, ça va faire sauter. Si, allez, je vais le dire. Tout ce qui est Pakistan, tout ça, c'est vraiment des ethnies. J'ai beaucoup, beaucoup de mal, quand même. Allez, j'humanise, je suis honnête avec vous. Après, mon côté chrétien fait quand même que je me dis, non, tu peux pas déshumaniser des gens. Il y a certainement des gens parmi eux qui sont des bonnes personnes. Donc, dire, il n'y a pas d'innocents à Gaza, bon, sachant qu'il y a des bébés de 6 mois, si tu veux, ça pose un problème. Et en fait, la violence de ce discours, est quand même très étonnante parce qu'elle est tenue par des gens qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous expliquent qu'il faut se couper les burnes et qu'il faut dire, merci à Mohamed quand il égorge Samuel Paty, si tu veux. Il ne faut pas qu'il ait ta haine. Donc, moi, il y a un moment, ce petit cirque m'a quand même fait prendre mes distances parce que, si vous voulez, je ne serai jamais un soralien, je ne serai jamais un antisémite idiot. Mais en revanche, mon honnêteté intellectuelle ne peut pas m'empêcher de constater ce petit paradoxe, quand même. Il y a un petit paradoxe, là. Et je ne peux pas tricher avec mon honnêteté intellectuelle. D'accord ? Avec toute la sympathie que je peux avoir pour la culture juive, en tout cas, ses bons côtés. Là, quand même, il y a un problème. Vous êtes comme les musulmans. Il y a une différence de traitement entre l'être humain qui appartient au groupe et celui qui n'y appartient pas. Les musulmans français n'en ont rien à branler de Lola et ils tweetent 420 fois dans la journée pour la Palestine. Bon, mais les Arabes, je les classe juste après, donc on va y aller mollo. Pour l'instant, on reste sur le kasher. Donc, en fait, il y a un énorme problème. C'est-à-dire que vous avez donné l'autorisation de faire des maxi-ratonnades où même les bébés sont coupables, si vous voulez. Donc, la question que je pose, qui procède de cette affirmation, la question que je pose en suivant, c'est est-ce que oui ou non, maintenant, vous allez nous laisser faire le ménage de la racaille qui fout la France à feu et à sang ? Maintenant que vous nous avez montré que c'est ce que vous faites dans votre pays refuge qui est Israël, et qui est essentiel hein, pour les Juifs, je veux dire, on ne peut pas les dégager de partout et leur dire qu'il faut qu'ils soient nulle part. Il y a un problème. Fabriquer de l'apatridisme, c'est un truc d'enculé. D'accord ? Tu as le droit, toi, en tant que Polonais, Espagnol, Français, ce que tu veux, qui n'est pas dans ton pays, tu as le droit. Mais par contre, tu ne peux pas leur dire, non, il ne faut pas que vous ayez de pays. Il y a un moment où, toi-même, si on te condamne à l'apatridisme, tu deviens fou, en fait. Mais de notre côté, il faut que vous compreniez que c'est problématique quand nous, dans notre pays, on veut faire le ménage, que vous interposiez et qu'ensuite, on vous voit, vous, faire le ménage dans votre véritable pays d'allégeance. Puisque là, tout d'un coup, les choses sont sérieuses. Parce que ça vous touche ethniquement parlant. Donc ça, c'est un énorme problème, en fait. Et on peut vous le dire sans être un soralien, en fait. On peut vous le dire, on peut noter ça sans être un soralien. On peut noter ça sans tomber dans la caricature pour ce qui touche au reste. Donc moi, le problème, il est là, en fait. Moi, j'attends qu'on m'explique ça. Qu'on m'explique pourquoi Le Pen était un fils de pute et que tout d'un coup, maintenant, on a le droit d'appliquer sa politique quand ça nous touche en tant que groupe. Ça, il va falloir me l'expliquer. Vous voyez ? Allez, on va passer... Bon, personne ne va me l'expliquer parce qu'évidemment, vous savez que m'expliquer ça, ça revient à avouer qu'il y a un double... Il y a une double... C'est comme pour les Africains. Il y a une double... Là, il y a un double problème, si vous voulez. Si vous me dites, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes projets pour les Goy que pour nous, bon, mais ça justifie que vous fassiez expulser historiquement des pays parce que ça veut dire que vous jouez contre ces pays ou qu'en tout cas, vous n'avez pas les mêmes projets que la majorité pour ces pays. Si vous me dites, non, tu mens, vous êtes dans la mauvaise foi et donc vous renforcez le cliché de la... Le cliché du juif qui serait un agent de l'extérieur et qui ne peut pas concéder les grandes vérités aux peuples autochtones. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va poser problème et qui ouvre d'ailleurs un débat sur la question juive au sein des nations. Voilà. Que se passe-t-il quand les objectifs des uns et des autres divergent ? Que se passe-t-il ? Est-ce que ça doit donner de la sous-citoyenneté ? Est-ce que ça doit donner de la méfiance ? Comment on se débrouille ? Vous avez des pays où ça marche. Vous avez le Maroc qui arrive à très très bien gérer la présence des trois religions parce qu'il y a une vraie tradition de ça et je crois qu'il y a une maestria quand même de l'appareil politique marocain, notamment de la royauté, pour avoir une excellente gestion de tout ça. Mais ça n'est pas le cas partout. Ça n'a pas été le cas en Espagne où à un moment Isabelle la catholique elle a dû dégager les juifs et les musulmans parce que ça ne fonctionnait pas. Parce que chacun avait des intérêts qui ne convergeaient pas avec celui de la majorité qui était catholique en fait. Donc ça rouvre le débat en fait. Et moi, il va falloir m'expliquer. Quelle est votre solution ? Voilà. D'ailleurs, je compte débattre avec un musulman. Là, j'en ai trouvé un avec qui je discute beaucoup, qui vit au Koweït, qui est francophone, avec qui j'aimerais beaucoup débattre sur l'islam. Donc si parmi vous, il y a un juif qui voudrait répondre à ces questions-là et qui voudrait faire un débat, je serais heureux de l'accueillir. Mais pareil avec les afrocentristes. Hein, voilà. Alors attention, pas un avec 30 abonnés. Quoi. Voilà. Essayez quand même de peser quelque chose dans votre communauté. Ça serait merveilleux. Parce que ça veut dire que vous avez du crédit. Parce que souvent, quand tu fais un débat, si tu fais venir quelqu'un qui est vraiment absolument pas connu, on va te dire « Ouais, t'as pris un no-name, lui, il nous représente pas, gna gna gna. » Donc, il faut absolument que vous ayez, je demande pas d'avoir 300 000 ou 100 000 abonnés, mais que vous ayez, je sais pas, quand même un peu de visibilité, 20-30 000 vues. 20-30 000 abonnés, c'est suffisant. Et on essaie de faire un... Voilà, si parmi vous, il y a un représentant de la communauté juive de France qui a envie de faire ce débat, je le ferai avec très très grand plaisir, sans s'interrompre et avec de l'écoute. Voilà. Et c'est pareil pour les afrocentristes. Le musulman, je l'ai déjà. Et c'est quelqu'un de très qualifié, donc ce sera très très bien. Passons à qui on va passer. Vous le savez à qui on va passer. Salam alaikum, bonjour. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Nanana, 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 nanana. Ah putain les arabes. Ah, y en a des choses à dire. Les arabes, quand putain, les bons gros arabes. La montée en tension. Les arabes. Les arabes. Mashallah, mon frère. Salam alaikum. Hey, je te jure, Hugo, je te jure, l'islam, c'est une religion, elle tirait bien. Tu devrais t'intéresser au Coran, subhanallah. Je te jure, Hugo, je te jure, si tu lis le Coran, c'est fini. Allah, là, t'es dans l'erreur, t'es dans le shirk. Si tu lis le Coran, tu vas devenir une... Mashallah, tu vas devenir une nouvelle personne. Allah, je te jure, une nouvelle personne. Mon rêve, c'est de t'amener à la Mecque. Allah, je te jure, papacito. Allah, en fait, t'es bloqué dans l'erreur. Mais attends, Mohamed, tu me dis ça, t'as le cul posé à Sarcelles, là. Je comprends pas. T'es en train de me vanter un programme que tu ne t'appliques pas, quand. T'es en train de me vanter un modèle, d'accord, que t'as laissé, quand. Oh, t'es en train de me vendre un truc que toi-même, tu veux pas t'administrer. Oula, je te jure, Hugo, l'islam, partout où il est allé, il a fait que du bien, oula. Oula, brasma, karbi, hakuranta, la mec, je te jure, Hugo. L'islam, partout, il est parfait. En fait, le problème, c'est pas l'islam, c'est les musulmans. Oula, c'est les musulmans. Oui, mais attends. Attends, Abdelbachir, il y a un problème, là. Tu me dis que le tronc est parfait, les branches sont parfaites, les feuilles sont parfaites, et le fruit qui tombe de l'arbre, c'est de la merde, quoi. C'est-à-dire que si je fais une confiture des fruits qui sont tombés de l'arbre, je fais une confiture à la merde. Comment tu me l'expliques, ça, quoi? Oh! Il y a un problème de logique, là, immédiate. Tout est parfait, quoi. Putain, non, la structure, elle est nickel. D'accord? Le Coran, il est parfait. D'accord? L'islam, c'est parfait. D'accord? Les Arabes, c'est de la merde. Attends, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Et je comprends pas, quand. Première nationalité, dans l'ordre, en prison, d'étrangers, hein, même pas de Français. Hein. Même pas de Français, d'étrangers en France. Hein. Algérie, Tunisie, Maroc, Tunisie, quand. Ouais, mais ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire un truc, quand, putain, on peut pas nier le réel et le balayer d'un coup de babouche. Ça veut quand même dire quelque chose, ça traduit quelque chose, quand même. Putain, les gangs de Telford, pakistanais, quelle est leur religion majoritaire au Pakistan? L'islam. Les racailles en France. T'en as trois sur quatre. Oui, parce que il y a des noirs qui sont chrétiens. T'as trois racailles sur quatre, c'est des musulmans, ils s'appellent Mohamed. Ouais, mais en fait, c'est pas des vrais musulmans. Ah, d'accord, c'est pas des vrais musulmans. D'accord. Et après, le même mec te dit, il faut pas juger, il y a que Allah qui sait. Ah, d'accord. Donc toi, tu m'expliques que c'est pas des musulmans, mais il y a que Dieu qui peut sonder le cœur des gens. D'accord. Donc toi, t'es Dieu, en fait. D'accord. Ah, d'accord, c'est la logique. Ouais. D'accord. Ah, ok, ça va. Hein, ça va. Putain, vous êtes de sacrés loustiques quand même. Hein. Vous le savez que vous êtes de sacrés loustiques. Depuis le temps que je vous le dis, en provoquant, des fois sérieux, des fois avec de l'amour, vous êtes de sacrés loustiques quand même. Vous le savez que vous êtes de sacrés loustiques. Vous le savez. Et vous vivez dans des pays de sacrés loustiques. Vous venez de pays de sacrés loustiques. Et vous n'avez pas envie de rentrer dans ces pays de sacrés loustiques. Ah, pas se mentir. Les seuls musulmans qui rentrent là à l'heure actuelle, c'est les Marocains. Parce qu'ils ont un roi stylé, ils ont une putain de civilisation. Attention, hein, je ne vous parle pas du Marocain dégueulasse de Molenbeek ou des racailles de Barcelone, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle le Marocain civilisationnel. Voilà, le Marocain qui fait plaisir. Bon. Putain, mais le reste, quoi. Le reste, les gars. Est-ce que vous mesurez... Allez, on va refaire l'exercice que j'ai fait avec les Juifs précédemment. Je vous demande, les musulmans, de faire un exercice chrétien. C'est de vous voir dans l'autre. Ça, c'est Jésus qui se voyait dans l'autre. C'est là où les gens voient une pute, Jésus voit un être humain et il lui permet de laver, il lui lave les pieds. Vous voyez ? Ça, c'est Jésus-Christ. Vous voyez une Kaaba. Wallah, je la touche pas, c'est une Kaaba. Oh, mais Jésus la voit, il va lui laver les pieds. Voilà. Bref, donc je vais vous demander de faire un exercice que vous ne faites pas, les musulmans. Je vais vous demander de vous mettre à notre place, à la place du Koufar, à la place du Gouer, du Gaouri. D'accord ? Et Françaoui. D'accord ? Mettez-vous à notre place. Nous, on a grandi avec des parents normaux qui ne crient pas dans un pays normal. Le volume de voix à la maison est normal. Il n'y a pas de tension. Bon. Tout d'un coup, on voit arriver des mecs. Et tout ce qu'ils touchent, ils en font une mousse au chocolat à la merde. Tout ce qu'ils touchent. Tout ce qu'ils touchent. La banlieue française, il faut aller voir les images IENA. Il faut aller voir ce que c'était. Hein. Moi, je l'ai connue, la banlieue française, avec des immeubles remplis d'Espagnols, de Portugais, de Polonais, de Français de la campagne, d'Italiens, d'Arméniens. Bon, c'était le paradis. Il n'y avait pas de tag, personne n'avait pissé dans l'ascenseur. Je suis désolé, je sais que c'est un discours qui ne vous plaît pas, mais c'est la putain de réalité, en fait. J'ai connu ce Mirail-là. Mes grands-parents habitaient au Mirail dans un immeuble qui était avec des pieds noirs, des Italiens, des Arméniens, des Portugais, des Polonais. C'était impeccable. Des Français de la campagne, des gens qui avaient fait l'exode rural, des Gersois, des Aveyronais, qui étaient venus vivre à Toulouse, qui prenaient leur retraite au Mirail, parce qu'il n'y a pas de retraite mirobolante, excusez-moi. Les immeubles et les halls d'immeubles étaient impeccables. Rien n'était jeté par la fenêtre, les flics pouvaient venir normalement. Aucun camion de pompiers n'était volé. Il n'y avait pas de tag pour trouver les endroits de deal. Enfin, ça, il faut que vous vous rendiez compte que c'est quelque chose que vous avez amené. Alors attention, vous ne l'avez pas amené du Maghreb parce qu'au Maghreb, ça n'existe pas. Vous avez amené vos penchants culturels que la République a subverti pour faire de vous ce qu'il y a de pire de Français, enfin de Républicains, et ce qu'il y a de pire de Maghrébins. Voilà. Vous êtes le fruit d'une bâtardisation culturelle qui n'a pas d'égal dans le monde. Si ce n'est peut-être le Saoudien qui tout d'un coup a accès à Internet et qui donc peut commander des influenceuses parisiennes pour venir leur chier sur le casque. Voilà. Vous êtes entre ça et le Pakistanais qui vit à Telford. Vous êtes entre les deux. Donc si vous voulez, le problème c'est que... En fait, je veux bien que vous me vendiez votre bouquin, que vous me vendiez les splendeurs de votre religion, mais elle a fabriqué des pays et des systèmes et des gens avec qui et chez qui vous n'avez pas envie de vivre. Parce que tous les mecs ici, là, en Occident, qui me vantent l'islam, qu'est-ce que vous branlez ici ? Ouais, mais je suis né ici, mais c'est compliqué de faire les chraf. Ferme ta gueule. Hein. Ton prophète, il a fui la Mecque, il était poursuivi par tout le monde, il allait se planquer dans une grotte avec l'araignée qui a retissé le truc derrière. T'inquiète. Après, il est allé chez les Abyssiniens, compagnie. T'inquiète, frère. Donc, si lui, il a fait ça, qu'est-ce que tu branles ici ? Avec des billets à 500 euros hors saison pour aller vivre en Arabie Saoudite. Il y a des associations qui s'occupent de faire la hijra. Il y a des associations dans les pays musulmans industrialisés qui s'occupent et qui aident les musulmans qui veulent rentrer en terre d'islam. Parce que c'est un des préceptes du Coran. Pourquoi est-ce que vous nous cassez les couilles ? Avec le voile, alors que vous n'avez pas envie de faire la hijra. Je ne comprends pas ce paradoxe. T'es en train de me vendre les splendeurs de l'islam, tu ne veux pas vivre là où il y a l'islam. Enculé, t'es venu me vendre un modèle dans un autre modèle. Qu'est-ce que tu branles ici, concrètement ? Et arrêtez de me dire, mais je suis né là, mais gnagna, ferme ta gueule. Si ton prophète, il a pu endurer tout ce qu'il a enduré, tu peux l'endurer aussi. D'accord ? Tu dois tenter de l'endurer, d'accord ? Lui, il s'est fait poursuivre par des gens. Par qui tu te fais courser, toi, par la bague de nuit ? C'est toi qui courses plutôt ici, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Si vraiment... Là, je ne m'adresse pas aux Maghrébins désislamisés ou chrétiens. Je m'adresse aux Maghrébins musulmans et même aux musulmans en général. Si tu as des choses à redire sur notre modèle civilisationnel,
et que tu veux plébisciter l'islam, qu'est-ce que tu branles ici? C'est une vraie question. C'est la même question que j'ai posée aux juifs et aux noirs. Vous voyez, à chaque fois, il y a une question piège, à chaque fois que je me farcie une communauté. Qu'est-ce que vous branlez ici? Qu'est-ce que vous branlez ici? Si tout est... Voilà, oh je te jure. Voilà, oh papacito, si tu pouvais comprendre la beauté de l'islam. Voilà, oh papacito, je te jure. Des fois, je pense au Coran, j'ai envie de pleurer. Voilà. Oh j'ai envie de pleurer. Voilà, oh tellement que c'est beau. Oh, subhanallah, je te jure, j'ai des larmes, il monte là, je te jure. Voilà. Oh et tu vis en Belgique? Ah, tu veux t'installer au Luxembourg? Tu vis à deux pas de la cathédrale Saint-Denis où a été couronné tout le roi de France? Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes macarons halal? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Individu paradoxal que tu es! Individu paradoxal que tu es! Tu vas te convertir ou pas? Je vais être ici, mais en même temps, j'ai pas les mêmes objectifs d'ici. J'aime bien la France, mais voilà, je veux pas en faire partie, mais je veux en faire partie. Et je veux vivre là, selon mes règles. Mais attends, et j'ai pas envie que ton pays de devenir de ton pays. Attends, mais c'est compliqué ce que tu me proposes, la fils de pute. C'est compliqué, quand. Tu veux vivre comme là-bas, avec la religion de là-bas, avec les habits de là-bas, en mangeant comme là-bas, ben va là-bas, con. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Il faut savoir qu'en islam, il y a un concept qui s'appelle la dounia. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le concept de la dounia en islam. La dounia, c'est tout ce qui rattache le croyant au monde matériel. Donc, c'est-à-dire au confort. Et en fait, en islam, c'est un très, très grand péché de ne pas se rapprocher de son Dieu pour des considérations qui sont d'ordre matériel. Je donne un exemple au hasard, mais vraiment au hasard, au hasard, au hasard. Imaginons que dans un pays, tu aies des minima sociaux, des tarifs préférentiels pour te loger dans des quartiers particuliers, que tu aies une carte qui te permette de te faire soigner sans avancer de frais, ce genre de choses. Et qu'en même temps, tu as envie de te rapprocher de ton Dieu. Mais là, tu te rends compte, c'est les conséquences de la vie, voilà. Ah, tu te rends compte que dans les pays musulmans, ça n'existe pas. Oh merde. Ouais, j'aime. Oh là, je l'aime. Oh là, Mohamed. Oh là, je te jure, non, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Mais le problème, c'est que carte vitale. Ah, tu comprends? Carte vitale. Je l'aime. Comment j'achète l'écran plat OLED sans la prime de la rentrée? Ah ouais, problème. Tu vois, ça c'est la dounia. Ça c'est la dounia. Et puis, il faut dire une chose. Tu aimes aller en boîte. Vous faites du saucisson halal. Vous avez envie de bouffer du saucisson. Vous avez envie de devenir français. Vous avez choisi de venir dans une des civilisations les plus fines qui existent au monde. Donc évidemment que vous vous sentez mal. Vous avez des préceptes à la con qui vous empêchent de vivre heureux en France. Mais retourne dans un pays où tes préceptes sont acceptés. Tu seras beaucoup plus heureux, beaucoup plus en phase. J'ai beaucoup de respect pour les musulmans qui ont fait les hijras, j'en connais plein. Et après, t'as le reste qui se trouve des raisons. Ah, mais c'est-à-dire, mes parents, est-ce que tu mets Dieu au-dessus de tout le reste ou pas? Bon, si tu mets Dieu au-dessus de tout le reste, tu casses pas les couilles, tu fais la hijra et là-bas, t'y vas à plein pot. Tu mets le camis, tu te trouves la petite beurette soin. Tu la voiles, tu lui fais 8 gosses, hein, tu prends une deuxième meuf si tu peux la financer, et voilà, tu vis comme un musulman heureux en terre d'islam. Et tu arrêtes de nous casser les couilles à allumer le téléphone au cinéma, à vouloir un menu spécial, c'est facile. Mais toi, tu rends tout compliqué, Mohamed. Karim, tu rends tout compliqué, Karim. Parce qu'en fait, je t'explique, je t'explique, Abdul Bachir, ce qui se passe. C'est qu'en fait, moi, je suis dans un pays, la République est en train de l'enculer. Les communistes sont en train de l'enculer. Les juifs de gauche sont en train de l'enculer. Les LFistes sont en train de l'enculer. Les arabes sont en train de l'enculer. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux ne pas te rajouter à la Hagra, tu vois, et rentrer dans ton pays? Ne pas mettre le coup de pied. Là, vous êtes à 4 ou 5 sur la France. Tu vois, j'ai oublié la franc-maçonnerie. Vous êtes 6 en train de mettre des coups de pied à la France. Est-ce que c'est possible qu'il y en ait un qui arrête de taper? Pour que potentiellement on puisse se relever. Est-ce qu'on peut s'enlever un problème? Bon, visiblement, votre problème, c'est que le cochon, c'est... Bah, ça hanaise. Bah, tu manges du cochon, voilà. Tu sais, c'est quand même incroyable de tu fais partie de la religion où le cochon et l'alcool sont interdits. Tu choisis d'émigrer dans le pays de la charcuterie et spécifiquement qui est mondialement connu pour ses alcools. Le champagne, le vin, le cognac, même si l'armagnac est meilleur. D'accord? C'est quand même dingue comme choix. Mais moi, je me demande si vous n'avez pas une forme de masochisme. Il y a quand même un problème, là. Il y a quand même un énorme problème. Et ce paradoxe, il n'y en a aucun d'entre vous qui arrive à me l'expliquer, sauf les gars avec qui je discute, qui sont tous des salafis et qui sont tous rentrés en terre d'islam. Ceux-là, j'arrive à parler avec eux. On a des réflexions intéressantes, discussions intéressantes. Tous les autres, là, qui m'expliquent, oui, l'islam. Mais tu n'y es pas, tu n'en veux pas. La vérité, c'est que tu t'appelles Jean-Michel, en réalité. Tu t'appelles plus Karim ou Yacine. Tu t'appelles Jean-Michel, la France, tu l'aimes. Alors, qu'est-ce que tu casses les couilles à garder ton substrat religieux? Deviens catholique. Deviens catholique, mec. Tu seras beaucoup plus heureux. Et là, je spécifiquement les Berbères, vous avez été plus longtemps catholique que musulman. Vous avez été plus longtemps chrétien que musulman. Parce qu'ils ont mis du temps à vous islamiser, pour certains. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que l'islam arrive chez vous, elle arrive presque 700 ans après le christianisme. Donc, c'est kiff-kiff, quoi. Quand vous remontez, vos ancêtres, ils étaient chrétiens. Je suis désolé. Le Maghreb, avant le Maghreb pré-islamique, c'est le plus grand concurrent de Rome. C'est Carthage, c'est la Numidie, c'est Jugurtha, c'est Caïna la chrétienne. Il y a un problème. À partir du moment où vous êtes devenu musulman, c'est devenu de la merde, en fait. Tous les trucs stylés. Même les Arabes vous valident pas en plus. Les Arabes, ils vous appellent les gitans. En arabe, la phrase pour dire maghrébin, c'est gitan. Ils vous valident pas, les Saoudiens. Là, récemment, ils ont demandé à ce qu'il y ait des... Ils ont demandé à ce qu'il y ait des contrôles de santé mentale pour les Algériens qui veulent faire le hajj. Quand est-ce que vous allez arrêter avec votre folklore? Que vos parents soient musulmans, c'est normal. Mais vous qui êtes nés en France, qui n'avez plus aucun lien avec le bled, si ce n'est des vacances de temps en temps, il y a un moment, il va falloir devenir français, en fait. Ou alors, il va falloir repartir. Voilà. Il faut être logique. L'assimilation, mais la vraie, hein. Pas « Ah, je suis musulman et français ». Non, ça n'existe pas. Français, c'est catholique. On est français quand on est catholique. La France, c'est le baptême de Clovis, c'est Saint-Louis, voilà. Arrêtez avec ces fadaises. Il n'y a pas de... C'est comme pour les juifs, si tu veux. Je suis français de confession juive. Non, tu es un juif qui vient en France. Français, c'est comme un Israélien, un Israélite. D'accord, c'est un juif. Le drapeau d'Israël, il y a une croix de... Il y a une Magen David, ça, comment on dit, une Magen David? Le drapeau de l'Algérie, il y a un croissant de lune, qui est un symbole de l'islam. Bon, même si je crois qu'il y a un lien avec le paganisme, quand même. Bon, bref. Les gars, la France, c'est la fleur de lys. La France, elle est catholique. Donc, si t'es français, si tu veux, parce qu'il y a même des Français qui ne sont plus français, attention, hein. C'est pas qu'une question de race, hein. Le communiste français complètement dégénéré, athée, qui vote LFI, n'est pas non plus français, c'est un républicain. Il n'est pas français. La France, c'est de Saint-Louis à 1789. Bon, il y a les protestants, mais... Pff. Allez, en plus, c'est le carême, je vais essayer d'arrêter d'être horrible avec les protestants. C'est vrai que je vous malmène. Hein. Je vous malmène, les protestants, mais j'ai beaucoup de mal. Il faut que je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Bon, la France, elle est catholique et un tout petit peu protestante. Voilà, je l'ai dit, c'est carême, je fais cet effort-là. Elle est un petit peu orthodoxe aussi. Bref, donc, les gars, à un moment, et puis même un Algérien chrétien, avec tout ce qui va avec, c'est la classe. Vous savez que Zidane n'a plus aucun lien avec l'islam. Zidane, il y a des photos où il boit des bouteilles de champagne. Zidane, il a donné des noms espagnols ou italiens, je crois, à ses gosses. Il s'est marié avec une Aveyronaise. Bon, quand il va voir la famille en Aveyron, là, est-ce que l'Aveyron, c'est le pays de la Ligo. Est-ce que tu penses vraiment qu'il demande si les trucs sont halal? Réfléchissez deux minutes. C'est le Kabyle le plus classe de l'humanité avec Aldostérone et le Raptor, en fait. Donc, à un moment, les gars, le Maghreb a, et je le dis pas pour troller, a une histoire absolument incroyable avec un alphabet qui existait avant la langue arabe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous complexez par rapport à l'arabité, vous voulez absolument être arabisé. Vous avez une civilisation qui est antérieure à la création même de l'alphabet arabe. Celui qui dirige vos vies actuellement. Il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Vous avez été une très très grande civilisation. Les plus vieilles villes de... Parmi les plus vieilles villes de l'humanité, il y a des villes en... Il y a des villes au Maghreb, en Algérie même. Le Maroc est la plus vieille nation du monde. Une des plus vieilles universités du monde. Donc, si vous voulez, il y a un moment, moi, je devenais ce mec stylé, devenais ce Français d'origine algérienne qui renoue avec le christianisme d'avant. Le christianisme d'avant l'invasion islamique de son pays, qui a détruit d'ailleurs... Vous êtes persuadé, vous minimisez l'histoire de votre peuple par rapport aux Arabes, alors que vous leur mettez 50-0 sur tous les points. Ça, il va falloir que vous en rendiez compte. Il va vraiment falloir que vous en rendiez compte. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Depuis que vous êtes devenu musulman, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement, en fait. Alors que le Maghreb a eu une civilisation brillante. Hein. Et c'est un mec soi-disant d'extrême droite qui vous le dit. Voilà. Donc, voilà. Voilà, les amis. Allez, qui c'est... Vous voyez, on a terminé sur une note positive. Allez, qui c'est qu'on clash ? Qui c'est qu'on clash ? On va clasher le blanc de gauche. Parce que là, j'ai clashé des ethnies différentes. Donc, pour ne pas être accusable de racisme, hein, je vais clasher la gauche. Je vais clasher le blanc de gauche. Petite merde, tu es terrorisé par les Arabes. Tu as peur des Noirs parce qu'ils ont des grosses mains. Et donc, tu te mets à les sucer et à dire oui à tout leur délire. Alors qu'en fait, que ce soit les Noirs ou les Arabes, ils ne te respectent jamais plus que quand tu leur envoies des signaux de bonne santé mentale et de force. Les Africains en général, que ce soit les Nord-Africains ou les Noirs, sont stressés par la fragilité. Tu vois ? L'extrait télé de « Why are you gay ?», ça s'est pas passé ailleurs qu'en Afrique. Et il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, l'Afrique, c'est testo. C'est comme ça, l'Afrique, c'est un testo. Ça veut pas dire que les autres continents sont pas testo, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'en Afrique, c'est un continent testo, la testo omniprésente. Et toi, comme t'as pas de testostérone... Tu fais l'erreur des mecs qui n'ont pas de testostérone, tu fais ce que font les femmes. En fait, quand elles voient un homme puissant, elles ont envie de se donner. Donc en fait, tu vois arriver des mecs qui ont des discours fermes, qui ont encore des notions d'agressivité parce qu'ils n'ont pas pris, touche pas à mon pote, Enrico Macias, donc eux, ils ont le droit d'avoir de la vindicte et de la fierté ethnique, tu vois. Et en fait, tu te couches devant eux. Et en fait, ils te méprisent pour ça. Et ils en rajoutent. Et ils font de toi toujours plus une serpillère. Moi, les Arabes, ils m'aiment pas. Mais au fond d'eux, si tu veux, je te le dis, Jean Gauchiste qui écoute cette vidéo, au fond d'eux, même les Arabes qui me détestent le plus, d'accord, parce que je suis un islamophobe, tout ce que tu veux, ils ont quand même plus de respect que moi. Ils ont quand même plus de respect pour moi que pour toi. Ils te l'avoueront pas, hein, parce que tu fais partie de leur plan. Il faut qu'il y ait des salopes comme toi pour qu'ils puissent s'installer... leur califat et se venger, en fait. Mais je te jure, si tu les écoutes entre eux, ils préfèrent un ennemi comme moi, ils préfèrent Jean-Marie Le Pen à la salope que tu es. Mathilde Panot, ils ont envie de la voiler, de lui faire fermer sa gueule et qu'elle aille faire la vaisselle. Je te le jure. Quand t'es en train de faire, ouais, le racisme et tout, les Arabes te regardent et si tu veux, au fond d'eux, ils font pof, type. Espèce de hataï. Ils sont là, ils font putain. Zemol. Ils te regardent, ils font putain. Eh ben, on a fait de toi une belle salope. Tu vois ? Alors que quand ils voient Le Pen, ils font oh le bâtard. Tu vois, ils sont en mode quand même. Mais tu sais, ça leur parle. Tu sais, c'est généreux. C'est un opposant généreux. Toi, t'es un opposant, ils vont. Ils vont, t'égorger, tu vas faire non, non. Tu vas pas faire les trucs testo. Tu vois, les Arabes, quand ils égorgent des chrétiens au Moyen-Orient, si tu veux, quand ils ont égorgé là, les mecs, quand ils ont égorgé, quand les musulmans, là, ils ont égorgé le Ghanéen là, avec les Égyptiens chrétiens, les mecs, tu les vois, ils sont tout calmes, ils prient. Bon, c'est magnifique, hein, la vidéo, elle me fait monter les larmes aux yeux. Parce que tu sais qu'ils sont à deux doigts d'aller rencontrer le Christ. Alors c'est horrible, un égorgement, moi je sais pas comment je réagirais, je n'aurais aucun courage. Parce que c'est une épreuve. Et les mecs, tu les vois, ils se font égorger et ils crient pas, ils pleurent pas. Ils sont déjà avec le Christ en fait, ils sont déjà en train de... Ils sont presque déjà à côté de Jésus. Et une seconde plus tard, enfin un peu plus parce que ça met du temps quand on t'égorge malheureusement, quelques secondes plus tard, après la plus grosse douleur de leur vie, ils sont en train de siéger à côté de Jésus-Christ. Et le problème que tu as, sale petite merde d'extrême gauche de merde, c'est que cette grandeur-là, tu peux pas la comprendre. Parce que tu es le fruit de rien, en fait. Tu n'as aucune dimension spirituelle, tu n'as aucune dimension d'honneur, tu n'as aucune dimension de grandeur et de beauté. Tu sais pas ce que c'est que la beauté. Et c'est pour ça qu'en fait, tu promeus du cheveu bleu, de l'avortement, et tu vas saccager les églises parce que tu blasphèmes et tout ça, parce que tu ne comprends pas ce que c'est que la grâce. Tu n'es pas touché par ça. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que tu as un tube digestif. En fait, il n'y a rien de divin en toi. Le divin est complètement mort en toi. Donc tu es pareil à un animal, c'est-à-dire que tu t'alimentes et puis après tu vas faire caca. Et il n'y a rien qui t'émeut. Alors des fois, il y a des petits... Des fois, parce que c'est quand même Dieu qui t'a fabriqué, donc des fois tu vois un très beau tableau et quelque part ça te parle. Mais vite, tu fais un très gros effort pour relativiser ça et dire que ça vaut pas mieux que les gribouillages de Miro, tu vois. Donc tu t'es un menteur professionnel, tu te mens beaucoup à toi-même. Et tu triches beaucoup avec tes émotions. C'est principalement ça que je te reproche. Hein. C'est de tricher avec tes émotions. Tu le sais, t'as pas envie de vivre avec des Arabes et des Noirs illettrés. Tu le sais, tu préfères vivre à côté de Jean-Michel le raciste hein, qu'avec Boubacar Traoré et Mohamed Merah. Quand je te dis ça, tu le sais. Tu vas me sortir un discours de salope, mais tu le sais au fond de toi. Quand tu contournes la carte scolaire comme une énorme salope de merde, c'est parce que t'as pas envie que tes gosses se fassent violer par les Arabes et les Noirs. Quand je dis violer, c'est dans le sens... ils se fassent bizuter. Ils se fassent humilier. Tu le sais. Les quartiers où tu choisis de vivre, ben c'est les quartiers où il n'y a pas d'Arabes. Arrête de te raconter des histoires. Les lieux de vacances où tu vas. C'est-à-dire, tu votes LFI, donc tu veux plus d'immigrés, de camps d'immigrés, tout ça. Tu vas où en vacances? Tu vas visiter la chapelle Sixtine en Italie. Tu vas visiter le musée du Gréco à Tolède. Tu vas voir les châteaux forts. T'aimes bien la bonne gastronomie. En réalité, tu la bandes, la tradition. Tu la bandes, la France. Tu la bandes, la grâce. Mais comme t'es une énorme salope de merde qui est un petit tricheur moral, tu ne te l'avoues pas. Et tu mens. Et tu es un très très grand lâche parce qu'en fait, le fait de faire rentrer Dieu en toi fait qu'après, il y a des trucs que tu peux plus faire et que tu peux plus accepter. Et ça te force à agir et donc à te mettre en porte-à-faux. Moi, j'aurais eu une vie beaucoup plus confortable si je m'étais contenté de faire des blagounettes, d'être conciliant avec les musulmans et de fermer ma gueule comme une énorme salope pendant que mon pays est en train d'être détruit. Mais je peux pas faire ça. Parce qu'il y a Dieu qui me regarde et c'est à lui que je dois rendre des comptes. Et en fait, un jour, je vais mourir, je vais laisser mon enveloppe charnelle, je vais monter au ciel, je vais me retrouver devant mon créateur et il faudra que je justifie chacun de mes actes. Et à un moment, il me dira, est-ce que tu t'es levé contre l'injustice? Est-ce que tes mots ont retranscrit ce qu'il y avait dans ton cœur? Et là, je lui dirai, Monseigneur, j'ai tout fait pour. Bon, des fois, j'avais envie d'attraper des meufs, je ne l'aurais pas dit au premier rendez-vous. Mais je le pensais, donc j'ai pas toujours dit ce que j'avais dans le cœur. Mais avec les choses importantes, j'ai jamais triché. Je n'ai jamais triché. J'ai toujours pris des positions qui me mettent en porte-à-faux avec tel segment de ma communauté, tel mec, tel truc, telle possibilité de gagner de l'argent. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Parce que je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Donc, de temps en temps, je dis un truc qui va vexer une part de mon public. Voilà, les juifs, ils sont pas contents en ce moment. Les musulmans, ça fait longtemps que je les ai perdus. Là, les noirs, aujourd'hui, avec ce que j'ai lâché en début de podcast, ça va grincer des dents. Mais c'est pas grave, en fait. Faut dire les vérités ou t'es une salope, en fait. L'humanité se divise en deux. Il y a les mecs qui disent ce qu'ils pensent et il y a les salopes. Et toi, t'es une salope. Toi, t'es une salope. Parce qu'il y a plein de choses que tu sais que tu veux pas t'avouer parce que tu n'as pas de courage. Parce que t'es une salope. Mais t'en as que la moitié de la faute. Parce que Dieu t'a fait comme ça. Il peut pas fabriquer que des héros. Parce que si tu veux, l'humanité est une épreuve. Donc pour que ce soit une épreuve, il faut qu'il y ait des gens qui soient des merdes. Parce que c'est l'épreuve pour les gens qui sont pas des merdes, si tu veux. Tu fais partie de l'exercice. Mais il a quand même mis au fond de toi une possibilité de changer. C'est-à-dire que tu ne dois pas être qu'un fléau. Tu peux devenir un contre-fléau. Et ça, c'est au fond de toi que ça se passe. Et la majorité d'entre vous ne devenez jamais des contre-fléaux. Vous contentez d'être le premier instrument que vous autorisez à être Dieu, c'est-à-dire une casse-couillerie, un sujet de casse-couillerie pour les gens braves. Et après, s'ils vous donnent la grâce et que vous vous fournissez des efforts, vous pouvez tout d'un coup arrêter d'être des gauchistes et devenir des êtres humains et des chevaliers. Mais c'est très très rare. Beaucoup d'entre vous sont condamnés à être des salopes. Et ça, les Arabes et les Noirs le comprennent. Hein. Les Juifs aussi. Hein. Je veux dire, tous les gens qui ont des projets autres que la France redevienne la France s'appuient sur vous, font semblant de vous donner des gages, mais vous méprisent profondément. Et d'ailleurs, à la première occasion, ils vous dégagent. Ça a été le cas pour Louis Boyard. Louis Boyard, bon, il a servi, il a fait son petit boulot de collabo, et puis dès qu'il a plus été nécessaire, hop, il a été évincé par une bande d'orques qui sont coalisées sans lui. Et c'est le destin qui vous attend. C'est-à-dire que vous allez promouvoir des modèles et des gens qui vont fabriquer une société, vous n'avez plus votre place. Hein. Parce que l'athéisme, les trucs de PD, tout ça, dans les sociétés africaines et dans les sociétés musulmanes, ça n'existe pas. Hein. Parce que contrairement à vous, bande de sales gauchistes de merde, les Arabes et les Noirs, je les connais, j'ai vécu avec, je peux vous dire qu'au sein de leur famille et dans leur société, il n'y a pas de place pour vos trucs de dégénérer. Hein. Et que dès qu'ils en auront fini avec nous, les patriotes catholiques, hein, ils s'occuperont très très vite de vos délires LGBT et de vos délires communistes. Hein. Et d'ailleurs, ils l'ont fait à chaque fois qu'ils l'ont pu. Hein. Iran en 1979, coalition de communistes et de musulmans pour renverser le Shah d'Iran. Bon, sachant que je suis un partisan, ça c'est pour les Iraniens qui m'écoutent, je suis un partisan du Shah. Hein. Voilà, moi je. Alors son règne n'est pas parfait, mais que les Iraniens le sachent, oula, que les Iraniens le sachent, je suis un fervent partisan du Shah d'Iran. Hein. Je suis même un admirateur de son père, précisément. Voilà, après, le Shah d'Iran en 1979, il ne tenait pas son peuple. Mais c'est pour vous dire que je n'ai pas peur de vous le dire, je suis un partisan de la royauté iranienne et un admirateur de la culture perse, que ce soit dit, que ce soit su. En Iran, si vous voulez, les communistes, ils se sont alliés avec les musulmans pour renverser la royauté, donc la Perse millénaire. Ils l'ont renversée, qu'ont fait les musulmans, ils ont purgé les communistes, ils les ont pendus, emprisonnés, battus à mort et brûlés. Afghanistan, pareil. Coalition de musulmans et de communistes pour renverser, je sais plus comment il s'appelait, le Khan, c'est un Khan en Afghanistan, je sais plus. Bon, ils l'ont évincé, ils ont évincé le roi d'Afghanistan. Bon, mais les communistes ont éclaté les musulmans et puis ensuite les musulmans se sont occupés définitivement des communistes. Voilà. Algérie, pareil. Hein. Les communistes sont venus aider les musulmans à dégager les coloniaux. Bon, et bien ensuite les Algériens sont occupés des communistes. C'est ce qui vous attend, tous les traîtres. C'est ce qui vous attend. Et si c'est nous qui gagnons, moi, je serai le premier à demander à ce qu'on vous purge. Hein. Parce que les traîtres, c'est vous portez la marque indéfiniment. Hein. C'est-à-dire que même si ce n'est pas les Arabes qui gagnent, il faudra qu'on trouve un moyen, nous, les gens, les patriotes, il faudra qu'on trouve un moyen de vous faire payer parce qu'à un moment il faut répondre de ses actes. Là, il y a des moments où vous jouez contre les intérêts de votre propre nation. Ça, au Moyen-Âge, c'était pendaison sur un pendoir à l'entrée de la ville. Parce que tout le reste, hein, toute la marge de manœuvre qu'ont les juifs de gauche, les arabes en mode moudjahidine et les noirs afrocentristes, toute cette marge de manœuvre, c'est vous qui la leur donnez. C'est la complicité de l'intérieur. C'est vous qui avez créé 1789, c'est vous qui avez créé la franc-maçonnerie. Vous êtes l'ennemi, le premier ennemi de la France, ce sont les Français subvertis par les préceptes maçonniques. Donc évidemment que si un jour Dieu nous fait la grâce de résoudre, de nous donner en fait un retour de la France dans cette vie terrestre. Parce que vous savez que dans la religion catholique, le triomphe est au ciel. Mais bon, si un jour on a le triomphe en ce bas monde, les premiers dont il faudra s'occuper, c'est de vous. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Et moi, à ce moment-là, je sortirai de ma retraite parce que de pourri, je passerai à héros. Et là, je viendrai donner les conseils et planifier. Ça, sachez-le. Hein. Moi, la liste, elle est prête. Hein. Il y a un moment où il faudra répondre de toutes ces trahisons, de tout ce parjurant, de tous ces actes que vous avez commis contre la France, et c'est mort. Hein. Parce que quand vous trahissez la France, vous trahissez non seulement les Français vivants, mais vous trahissez les morts. Et dans les morts, il y a les poilus, il y a les croisés, il y a tout ça. Et les croisés et les poilus, ce sont des gens qu'on ne doit pas trahir avec ce qu'ils ont traversé. Donc, un mec qui trahit les poilus, la punition, je ne vous la dis pas parce que le podcast va sauter, mais moi, je la connais. Et puis, quelque part, vous savez comment ça va finir. Vous imaginez bien que si je ne peux pas en parler dans le podcast, c'est que ce n'est pas un truc qui se passe à l'adolto, quoi. Il y a des joules qui sont engagées avec des instruments contondants. Donc, il y aura ça. Hein. Si un jour, Dieu nous donne le triomphe terrestre, il faudra payer pour toute cette traîtrise. Alors, pour qu'un pays fonctionne, il faudra qu'on pardonne. Et puis, en plus, ça rentre dans les préceptes du christianisme, d'accord ? Il y a beaucoup parmi vous de traîtres et de petits collabos du quotidien qui seront pardonnés parce que le pays, il faut qu'il tourne. Mais dans les grands représentants, dans ceux qui auront beaucoup collaboré, là, il faudra faire des exemples. Parce que sinon, on ne récupère pas un pays sans montrer que quand c'est la fête, il faut payer l'orchestre à la fin. Hein, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Bon. Donc, vous êtes le principal fléau de ce pays. Et voilà pourquoi, entre autres, je n'adhère pas au racialisme, parce que au sein de la propre, entre guillemets, race française, si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a une race française, sachant que dedans, il y a des Basques et des Flamands, et des Alsaciens. Voilà pourquoi je n'adhère pas à ça, parce que au sein de la pseudo-race française, il y a ça. Il y a des armées et des armées de gauchistes blancs et bien français, avec des patronymes français. Bon. Donc, à un moment, oui, je veux bien, Papacito, c'est un négrolâtre narbonoïde qui retourne en Espagne. Raptor, c'est un infâme bougnoul. Je sais pas qui est un négroïde. Aldostérone, je sais pas quoi. Idriss Aberkane, je sais pas quoi. Très bien, mais débrouille-toi avec Mathilde Panot, comment il s'appelle, Louis Boyard, et puis fabriquez-nous la France de demain, avec ces mecs-là. Il me tarde de voir ça. Donc voilà, pour les Blancs, vous êtes le principal fléau, vous êtes de l'excrément, vous êtes la honte de la France. Et que Dieu nous donne l'opportunité un jour de vous voir payer pour tout ça. Voilà. Bon, c'est vrai que j'aurais pu cacher les homos, mais ça, c'est un peu dans tous les podcasts. Donc aujourd'hui, ça va être leur jour de vacances. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait les Blancs. J'ai fait les Arabes, les Noirs, les Juifs. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais clasher les Indiens aussi. Mais il suffit de dire qu'ils sont sales, et puis déjà, la disqualification, elle est éternelle. Non, mais je pense que c'était un podcast qui était complet au niveau racisme. Je pense que c'est pas mal. Bon, mais les homosexuels, vous êtes gays. Voilà, donc arrêtez de l'être. Et puis voilà. Peut-être que je ferai des sous-catégories. Peut-être que dans le prochain podcast, on clashera les pauvres fiottes de blancs qui se convertissent à l'islam. Où on fera le... On fera peut-être le... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oh putain, je me suis pas clashé, je me suis pas auto-clashé. Je me suis pas auto-clashé, et j'ai pas clashé non plus les droitards. Bon allez, on va se faire les droitards. On va se faire les droitards, parce que vous le méritez. Alors, les droitards. Ouais, les châteaux forts, ça tue. Ouais, le roi de France, ça tue. Ouais, les régions, ça tue. Ouais, la campagne, ça tue. Uber Eats, tu vis à Paris, tu connais pas le territoire national, tu connais pas ton histoire, tu vas pas à la messe. Tu es une merde. Et Bardella 2027. Tu es une merde. Tu es la même merde que le gauchiste, avec le sentiment de pas en être une. Alors que le gauchiste, au fond, il est mal habillé, il pue un peu la merde, il se fait bolosser, il est terrorisé par les Arabes, il sent que c'est quand même une énorme merde. Toi, tu reçois des médailles que t'as pas le droit de recevoir normalement. Tu vois le problème ? C'est pas parce que t'as mis un barbour que ça fait de toi un Français respectable. Tu vois ? Parce qu'en fait, tu votes pour un parti qui ne veut pas intervenir sur l'avortement, qui est pro-laïcité, d'accord ? Et derrière, ça parle de Châteaufort. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'expliques les croisades Saint-Louis et tu votes pour un parti républicain qui ne met pas fin à l'avortement, qui ne met pas fin à la laïcité. La laïcité, la franc-maçonnerie en fait, hein. La laïcité, c'est les préceptes maçonniques. La laïcité, fils de pute, c'est les préceptes de la Révolution française qui a terminé la France, en fait. Sigille la France. 496-1789. Donc explique-moi, en fait, explique-moi. Tu promeus les chevaliers et ce qui a mis fin aux chevaliers. Tu promeus la France et ce qui a mis fin à la France. Tu promeus le terroir, mais ça finit avec un Uber Eats Five Guys. Je comprends pas. Je comprends pas. Jeanne d'Arc, elle est magnifique, mais en fait, tes idoles féminines de droite, c'est des putes qui ont un body count de malade. Je comprends pas, en fait. Il y a un truc qui va pas, là. Tu es au moins au même nombre de contradictions que le gauchiste, en fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Ouais, mais attends, mais attends, je t'explique, parce qu'en fait, j'ai une raison de pas aller à la messe, mais t'inquiète, hein. Mais ne me parle pas de chevalerie, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, si tu veux. Mais ne me parle pas de chevalerie. Le chevalier, il priait avant d'aller au combat, si tu veux. Il vivait dans des commanderies. Les commanderies, ce sont des ordres religieux. Hein. Donc tu te lèves à 5h, tu vas prier. Pas de viande le vendredi, les carêmes, les processions. Bon, t'es loin de tout ça, quand même. Alors qu'est-ce que tu branles avec ta bague templière? Et le lendemain matin, t'es en train de tweeter pour que Bardella gagne en 2027. Et le mec, il est républicain et laïque. Et pour l'avortement. Non, parce que les Arabes qui te vendent l'islam et qui vivent pas en islamie, c'est comme les droites, c'est comme les droitards qui te vendent la droitie et qui vivent en gauchie. Ben ouais, regarde, t'es pour la laïcité. Tu es pro-républicain. Tu consommes mondialisation à peu près à tous les étages. Moi aussi, je consomme des trucs mondialisation. Attention, hein. Je suis pas parfait, hein. Mais j'ai quand même une certaine cohérence dans mon quotidien. Donc, va falloir te mettre en question, loulou, là. Ça suffit plus, là. Ça suffit plus. Là, les mecs qui arrivent en 2020 pour répéter les discours que j'ai eus avec le Raptor il y a 20 ans. Dans le rendez-vous dissident, il y a 10 ans, pardon, dans le rendez-vous dissident, non. D'accord ? Aller sur CNews expliquer des trucs qu'on disait déjà dans le rendez-vous dissident il y a 10 ans, quand c'était chaud de le dire, hein, si tu veux, ça fait pas de toi un héros. Ça fait toi une petite merde opportuniste et carriériste. Donc vous arrêtez de baiser à droite, à gauche, là. Comme des porcs, là je parle pour les femmes, hein, comme des truies, pour nous vendre Jeanne d'Arc après. Les mecs, vous arrêtez d'avoir un double discours de vive Saint-Louis, mais attends, la laïcité, en fait, c'est mon domaine. Il va falloir se réveiller, les loulous. Je suis pas trop sévère avec vous, hein, parce que vous êtes quand même plus ou moins mon camp. Mais j'en ai marre de vous valider alors que vous méritez pas de l'être. Voilà, le barbour ne suffit plus. À un moment, va falloir s'y filer, va falloir arrêter d'être une salope, hein, va falloir s'y filer physiquement, va falloir qu'il y ait des actes. Hein. Voilà, les hommes, c'est les actes. Hein. D'accord ? Allez, va. On va pas faire trop long sur vous, parce que quand même. Puis j'en garde sous le pied. Allez, l'autocritique de Papacito. Allez, c'est parti. Il faut que je sois le plus sévère possible avec moi. Eh ben alors, Papacito, on pousse les gens à aller à l'église et on y divorcé, hein ? Et ben alors, Papacito, tu aimes la France, mais tu es parti. Et ben alors, Papacito, on veut mettre fin à la République, mais on paye toujours ses impôts en France. qu'est-ce que je pourrais me mettre d'autre dans la gueule ? Ouais, Papacito, tu dis qu'il faut refabriquer des patriotes et t'as pas d'enfants. Ouais, Papacito, t'es chauve. Oui, Papacito, ça déplore le changement de population, mais tu y contribues. Bon.
Bon, ce qui contredit le fait que j'ai toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais m'administrer d'autre, à juste titre? Ah, c'est dur, c'est un exercice difficile. Hein. Putain, j'en vois pas. Envoyez-moi des messages pour me clasher. Envoyez-moi des messages pour me reprocher des trucs. S'ils sont valables, je les dis dans le prochain podcast. Voilà, les amis. Bon, c'était encore moins long que pour les droitards. Et on a fini par ce qu'il y avait de plus proche. Et à la fin, quand c'est toi, faut y aller mollo, quand. Eh ben alors, Papacito, on aime le sucre. Oui, Papacito, ça parle de se dépasser de soi, tout ça et tout. Tu peux m'expliquer pourquoi sur les 3000 calories que tu bouffes par jour, il y en a 1000 calories de sucre? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Hein, Papacito? Voilà, regardez. Je me les sers moi-même, comme dirait Cyrano. Oh, vous auriez pu dire bien plus de choses, en somme. Tenez, par exemple, Papacito, quand on mange autant de sucre dans la journée, comment peut-on faire l'apologie de la virilité? Oh putain, en plus ça rime. Oh putain, bijouteur. Ah, il défend l'Europe, et pourtant c'est un arbonoïde. Oh putain. Eh oui. Eh oui, mais bon, vous m'aimez bien au fond quand même. Hein? Ah là là. Quand même. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous m'aimez bien, au fond. J'ai pas que des défauts. Oui, Papacito pique des colères sur YouTube quand il a de la frustration. C'est un gros bébé. Tu vois, regarde. Putain. Hein, Papacito, cet éternel enfant qui pique des crises quand on lui répond pas au bout d'une semaine. Vous voyez, regardez, j'y arrive. J'y arrive à me mettre... à me clasher. Bon, les amis, je vous embrasse. Hein. Voilà, donc je suis prêt à débattre avec des homosexuels, des gauchistes, des blancs de gauche, mais ce qui est la même chose, hein, des afrocentristes, des juifs, des musulmans, même si les musulmans j'ai déjà. Donc voilà les amis, venez me prouver que j'ai tort. Je vous embrasse, hein, je vous dis à très bientôt. La paix sur le monde, vive la France, vive le roi et vive notre Seigneur Jésus-Christ. La bise les amis.